CQFD.
À première vue, l'œil nu est une exposition interactive sur l'œil et la vision. Mais c'est encore bien plus que cela, c'est une occasion unique d'avoir enfin vos yeux à l'œil, une exposition qui vous en mettra plein la vue, qui vous en fera voir de toutes les couleurs, et où il s'agira de ne rien conclure les yeux fermés. Ce que je viens de vous dire, c'est écrit sur le carton d'invitation de la toute nouvelle exposition à l'espace des inventions à Lausanne, une exposition Sarah Diren qui s'ouvre aujourd'hui.
Oui, Sylvie, occasion de parler les yeux dans les yeux. Dieu de génétique liée à l'œil. Dans une dizaine de minutes, nous recevrons Daniel Chorderey, qui est directeur de l'IRO. L'IRO, c'est l'Institut de recherche en ophtalmologie à Sion. C'est un institut qui fête aujourd'hui, enfin en ce joli mois de mai, ses 25 ans. Mais d'abord, visite de l'œil nu, créé de toutes pièces par la fine équipe de l'Espace des Inventions, dont Romain Roduit. Je m'y suis rendue quelques heures avant le vernissage. Il y avait encore quelques clous à planter.
Des
petites vis à dévisser, vous l'entendrez. Et pour cette visite, j'ai suivi du regard la directrice de l'Espace des Inventions, Emmanuelle Giacometti. Alors vous êtes accueillie par un œil scrutateur, un œil 33 fois plus grand que le vôtre. Lorsque vous passez derrière cet œil, un dispositif vous montre l'image à l'envers de l'entrée du musée. Et du coup, vous comprenez de quoi et comment ça fonctionne, mais surtout de quoi est fait notre œil, Emmanuelle Giacometti.
Essentiellement, eh bien, il y a la cornée qui est la surface qui protège notre œil, qui est tout devant l'œil, qui est bombée, qui est transparente. Derrière, on a l'iris qui est bleu, vert, brun. Derrière l'iris, on a le cristallin qui est une petite lentille optique qui peut se déformer pour permettre de faire la netteté sur l'objet qui attire notre attention. La pupille qui est au centre de l'iris, la pupille dans le fond elle n'existe pas, c'est un trou, mais enfin hein, c'est la partie noire de l'œil, c'est par la pupille que la lumière pénètre dans l'œil. Et puis au fond de l'œil on a la rétine qui est donc une surface tapissée de récepteurs sensibles à la lumière, deux types de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. Et je viens de trouver un moyen mnémotechnique pour me rappeler les spécificités des cônes et des bâtonnets. Les cônes voient la couleur, C, et les bâtonnets, eux, ne voient pas en couleur, ils voient en ton de gris. Voilà, et puis, au fond de l'œil, eh bien, nous avons le nerf optique qui récupère toutes les informations collectées par la rétine et qui les transmet au cerveau. Et le cerveau va faire un gros travail d'interprétation de ce que la rétine a obtenu comme image lumineuse.
Une expérience pour montrer ce qu'est la pupille, qui en fait, comme dans un appareil photographique, c'est...
C'est le diaphragme. Alors on allume, ensuite je vais placer mon œil sur ce petit tube, et au fond de l'œil j'ai un petit miroir qui me permet de bien voir mon œil, et je peux modifier l'intensité lumineuse
de la lumière
et voir ma pupille changer de taille en fonction de la lumière qui arrive dans mon œil.
On n'aura bien évidemment pas le temps, Emmanuelle Giacometti, de tout faire, de tester toutes les installations. Quoique c'est très tentant, on a envie de toucher sur tous les boutons, et notamment ici, parce qu'il y a l'œil, mais il y a les couleurs, la lumière qui joue un rôle important dans la perception des couleurs.
Alors absolument, la lumière, c'est ce que l'œil détecte, ce que l'œil voit. La lumière du soleil, elle est blanche, mais en fait, on peut, et on sait très bien le faire aujourd'hui, décomposer cette lumière blanche pour voir de quoi elle est effectivement constituée. Et elle est constituée de tout le spectre de l'arc-en-ciel. Alors on peut faire un arc-en-ciel artificiel, bien entendu. Et puis à partir de là, on peut combiner toutes ces couleurs pour finalement former toutes les couleurs que nos yeux peuvent percevoir. Alors ce qu'on appelle lumière, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique. On l'appelle lumière parce qu'elle est perçue par nos yeux. Certains animaux, eux, peuvent voir au-delà du spectre lumineux de l'œil, mais ce que nous on appelle la lumière, c'est ce que l'œil peut percevoir. Alors ces deux expériences-là, elles nous démontrent la même chose, c'est-à-dire que quand on a une source de lumière, donc un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur, eh bien pour former toutes les couleurs qu'on a envie de voir à cet écran, en fait on a trois couleurs de base, trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, et à partir de ces trois couleurs, eh bien en dosant, on peut reconstituer tout un spectre de couleurs qui recouvre grosso modo le spectre naturel des couleurs que nos yeux peuvent ressentir. Alors par exemple ici, si je mets tout à zéro, eh bien je n'ai pas de lumière, donc on a quelque chose qui s'apparente au noir. Maintenant, si je mets le rouge à fond, ben vous voyez, voilà, l'écran devient rouge, pas de problème. Je vais baisser un petit peu le rouge, je vais rajouter du vert, et on voit apparaître une espèce de jaune, hein. Et là, l'idée, c'est pas très naturel d'arriver à trouver comment faire une couleur avec du rouge, du vert et du bleu. On est beaucoup plus habitué à l'autre manière de travailler avec les couleurs, qui est la manière de la peinture, où par exemple, je mélange de la peinture jaune et de la peinture rouge, et j'ai une peinture orange. Mais c'est pas la même chose que là où on mélange des sources de lumière et pas des filtres qui retiennent la lumière. Une fois, on ajoute de la lumière, donc plus on en rajoute, plus on s'approche du blanc. Et dans le cas de la peinture, on ajoute finalement des filtres qui vont retenir la lumière, et plus on en ajoute, plus on va s'approcher du noir. Hein, quand on commence à mélanger toutes les peintures comme les enfants adorent le faire, à la fin, on arrive en général à un brun pas très beau, de plus en plus foncé.
Des magnifiques photos de parties de l'œil. Là, on a l'impression qu'on voit une feuille avec des nervures.
On voit une feuille absolument avec des nervures, comme ça.
Je regarde, c'est...
Alors, ce qu'on voit en blanc et qui nous donne cette impression de nervure comme sur une feuille, ce sont les vaisseaux sanguins qui irriguent la rétine. C'est effectivement très beau.
Et ce qu'on voit aussi, c'est une toute petite tache.
Alors, on voit l'endroit où tous les vaisseaux sanguins se retrouvent, les vaisseaux principaux, et c'est là où le nerf optique quitte l'œil pour rejoindre le cerveau, et c'est aussi ce qu'on appelle la tache aveugle, parce que c'est un petit endroit qui est dépourvu de ses récepteurs sensibles à la lumière, dépourvu de cônes et de bâtonnets, et donc dans certaines circonstances particulières, on peut la mettre en évidence, cette tache aveugle. On peut voir ça d'ailleurs dans l'exposition, dans une expérience qui se trouve un petit peu plus loin.
Qu'on va tester ?
Oui.
Mais ça, c'est la partie ici, justement, expérience à tester avec des petites maisonnettes, des clés.
Des petites cabanes, des clés, voilà, il y en a deux. Une qui est accrochée au petit panneau vrai et une qui est accrochée au petit panneau faux. Alors, nous voulions parler de la tache aveugle.
La cabane de la berlue.
La cabane de la berlue. Il existe une région au fond de l'œil qui est aveugle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et oui, c'est vrai. Et là, vous êtes face à une expérience, il faut s'asseoir pour être bien confortable, où on distingue une croix sur la gauche et une tache noire sur la droite. La cabane est toute blanche. Alors, je vais fermer mon œil gauche et je vais fixer avec mon œil droit la croix en m'approchant. Et voilà, il arrive un moment où je ne vois plus la tache noire qui est à droite, parce qu'en fait, elle se situe juste sur ma tache aveugle. Et comme la cabane est toute blanche autour, mon cerveau, il complète l'image qu'il reçoit de la rétine et il se dit tout est blanc, tout est blanc. Et donc, la tache disparaît de ma vision. Alors évidemment, ça ne peut être mis en évidence que dans ce genre de circonstances bien particulières. D'une part, j'ai un œil fermé et d'autre part, c'est un environnement bien travaillé pour que le cerveau se trompe dans la manière de compléter l'image.
Oui, mais en fait, c'est toujours le cerveau qui fait le boulot. Aussi pour l'image à l'envers.
Un énorme travail de traitement d'informations, ça c'est évident. L'œil lui envoie des informations, mais le cerveau fait un énorme travail d'informations. Donc quand on parle de système visuel, on intègre aussi le cerveau.
Une dizaine d'expériences, on en teste une autre. Ouais. Regard pointu, il est possible de lire sans bouger les yeux. C'est faux.
Oui, c'est faux. Ça, c'est lié au fait qu'il y a une petite région dans l'œil qui est pas très loin de la tache aveugle, qui est un petit peu plus loin, qui s'appelle la fovéa. C'est la région qui fournit une vision vraiment très précise et très détaillée. Et pour la lecture, il faut que les mots défilent sur la fovéa pour qu'on puisse les distinguer suffisamment bien. Et quand vous pouvez faire cette expérience en regardant quelqu'un lire, et vous verrez que le regard n'est jamais fixe, il balaye, il est obligé de balayer le texte.
Avoir deux yeux est un moyen plutôt malin pour permettre la vision tridimensionnelle. Vrai ou faux ?
Qu'en pensez-vous ?
Si j'ai un troisième œil, qu'est-ce que ça fait ? J'entre dans la quatrième dimension. Je ne sais pas.
Alors, on va essayer. On va essayer vrai. Hein.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et quelle est l'expérience ?
Alors, l'expérience, c'est une expérience que vous avez certainement fait étant petite. ou en accompagnant vos enfants chez le pédiatre, c'est un test qui s'appelle le test de langue, une carte sur laquelle on voit apparaître des objets en relief. C'est un test qu'on utilise avec les enfants, même les tout petits, pour s'assurer qu'ils ne souffrent pas de strabisme, même très léger, hein, parce que dès qu'on a un strabisme, la vision tridimensionnelle est perturbée et donc on ne voit plus apparaître ces trois formes. Et alors on peut le voir, eh bien, il y a une étoile et si vous fermez un œil, eh bien, vous vous rendez compte que ces trois formes, alors qu'avec les deux yeux, vous voyez vraiment ces trois formes sortir, je dirais, de la carte. En ayant un œil fermé, vous ne voyez plus. Et on a deux yeux vraiment pour percevoir la distance, pour voir en trois dimensions.
Est-ce que la nuit, tous les chats sont gris, Emmanuel Giacometti?
Est-ce que la nuit, tous les chats sont gris? Alors, c'est une expérience, effectivement, où on est dans la pénombre, où on glisse sa tête dans une petite niche dans laquelle sont dessinés des chats de différentes couleurs. Et on se rend assez vite compte qu'on a beaucoup de peine à reconnaître ces couleurs. Et en dessous d'une certaine luminosité, nos cônes ne détectent plus la lumière et donc ce sont surtout les bâtonnets qui assurent la vision et on voit en noir et blanc. On perçoit certaines couleurs mais de manière beaucoup moins claire qu'on ne le fait à une lumière normale. Donc la nuit, tous les chats sont gris, ce n'est pas un mythe.
Et non, c'est pas un mythe, c'est scientifique. C'était donc Emmanuelle Giacometti, la directrice de l'Espace des Inventions, où s'ouvre aujourd'hui cette exposition qui s'appelle « L'œil nu » qui est à voir jusqu'en octobre 2015. Bon, Sarah Diren, on sait maintenant, on a vu comment, de quoi sont faits et comment fonctionnent les yeux. Maintenant, on va s'intéresser aux maladies génétiques qui en sont liées, et ceci grâce à l'IRO, l'Institut de Recherche en Ophtalmologie, qui est basé à Sion, et qui fête ses 25 ans. Ce mois-ci.
Oui, qui est un institut qui a pour mission de promouvoir la recherche ophtalmologique en Suisse. Ils sont aujourd'hui une quarantaine de scientifiques à mener des recherches fondamentales et appliquées, surtout sur la génétique de l'œil. Génétique, ben oui, parce qu'une bonne partie des maladies oculaires sont dues à un facteur génétique, soit sont totalement héréditaires, c'est le cas de la rétinite pigmentaire qui entraîne à long terme la perte de la vision. Une personne sur 4000 en serait atteinte. Alors d'autres maladies sont en partie génétiques telles que le glaucome ou la dégénérescence de la macula liée à l'âge.
Alors on va parler de tout ça avec le directeur de l'IRO, Daniel Chorderey. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous en duplex de notre studio de Sion. Vous menez à l'IRO en ce moment une dizaine de projets de recherche autour de la génétique de l'œil. Comment a évolué la recherche ophtalmique ces dernières 25 ans?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes. Donc, on a tout d'abord eu une période où c'était plutôt la physique qui était à la base de la recherche avec le premier directeur de l'IRO, le professeur Riva. Et à mon arrivée en 2003, moi, je suis un pédiatre et un généticien, donc je suis pas ophtalmologue. Et j'ai développé la génétique de ces maladies. Et puis, dans une troisième période, une fois qu'un certain nombre de gènes avaient été identifiés, on a rajouté un axe qui est celui de la biologie et de la thérapie.
Vous dites, Daniel Chorderey, la physique de l'œil. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup au tout début de l'IRO sur la vitesse du sang dans la rétine. La vitesse du sang dans la rétine peut être responsable de certaines maladies?
Oui, bien sûr. C'est donc le sang est quelque chose qui est absolument nécessaire à la survie de toutes les cellules. Et il arrive parfois que ce sang ne circule plus. C'est en fait comme si vous avez un infarctus du myocarde, du cœur, ou bien une atteinte au niveau cérébral où le sang ne passe plus. Donc vous avez une attaque cérébrale. Et on peut aussi avoir des attaques, si on veut, de la rétine. À un moment donné, vous avez soit la totalité des vaisseaux, soit une branche de ces vaisseaux qui est bouchée pour plusieurs raisons. Et donc, le sang ne va plus arriver dans la rétine et les photorécepteurs, ces cellules justement que vous avez décrites avec Madame Giacometti, ces photorécepteurs ne vont pas survivre. Et une fois que les photorécepteurs sont morts, ils ne vont plus se régénérer.
Depuis une dizaine d'années, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez mené des recherches, vous, essentiellement sur la génétique de l'œil. Et Sarah m'a dit tout à l'heure que pour ça, vous utilisez un modèle un peu particulier, les zébrafiches, donc des petits poissons d'aquarium. Il semble que vous en avez près de 3000 à l'Institut de recherche en ophtalmique. Mais à première vue, c'est le cas de dire, les yeux de ces zébrafiches n'ont pas grand-chose à voir, c'est le cas de dire encore avec les nôtres.
Non, tout le contraire. Nos yeux sont un développement de l'œil de ces premiers animaux, et l'œil du zébrafiche en fait se développe tout à fait comme l'œil d'un être humain. Il y a différents stades, et l'avantage de ces zébrafiches, c'est que on passe du stade œuf fécondé à un stade de larve où l'embryon, si on veut, est déjà complètement formé. Donc en 24 heures, on peut voir se développer l'œil sous le microscope, puisque les poissons ont cette capacité de pondre des œufs. Et donc ces œufs vont se développer à l'extérieur du ventre de la mère, et on peut facilement regarder comment ces organes se développent. Et il y a des recherches qui se font sur le zébrafiche, autant par exemple sur la cardiologie, sur la neurologie. Il y a même des poissons qui sont utilisés pour étudier Alzheimer et Parkinson.
C'est vrai qu'il est très utilisé.
Ça veut dire que vous pouvez prendre un gène, le modifier, soit à l'état d'embryon, soit directement à l'état adulte.
Alors oui, l'avantage de ce système, enfin un des avantages, c'est de pouvoir l'inhiber ou le bloquer très tôt dans le développement. Et ça va nous permettre de voir ce que fait ce gène dans la mise en place de l'œil.
Mais vous avez d'autres modèles, bon alors les traditionnelles souris, vous avez aussi je crois des murins, sorte de chauve-souris.
Non, je crois pas.
Voilà.
Non, on a des souris, on travaille aussi sur des rats, mais essentiellement c'est sur les zébrafiches et les souris.
Alors, parmi les recherches que vous menez en génétique, Daniel Chordoret, il y en a une recherche autour d'une maladie qui touche 3 ou 4 personnes chaque année, c'est le rétinoblastome. C'est une forme de cancer de l'œil.
Alors oui, c'est un cancer de l'œil qui touche les nouveau-nés, et en principe, ça peut se développer entre l'âge, disons, de 0 ou même avant la naissance, jusque vers l'âge de 5 ans. Et ça se développe pendant la période durant laquelle la rétine continue à devenir mature. Et une fois que la rétine est mature, il n'y a plus cette possibilité de développer une tumeur chez l'homme.
L'Institut est parvenu il y a quelques années à identifier justement un gène responsable de ce cancer de l'œil.
Oui, alors il faut savoir aussi que les cancers, c'est pas quelque chose qui suit une seule mutation dans un seul gène. C'est toujours une cascade. Mm-hmm. Vous avez un premier événement qui va donner un certain avantage à une cellule, et c'est à ce moment-là que va se décider si cette cellule va être identifiée par le corps comme étant une cellule anormale et être détruite, ou si elle va pouvoir développer d'autres mutations dans d'autres gènes pour échapper au contrôle du corps. Et nous avons identifié une mutation dans un gène qui permet justement de favoriser le développement de ce cancer. Le premier gène du rétinoblastome, le gène qui s'appelle RB1, a été identifié il y a déjà de nombreuses années par d'autres chercheurs.
Alors, on a compris, Daniel Chordoret, que pour comprendre ces maladies oculaires, il faut comprendre les gènes. Mais une fois qu'on a compris ces gènes, est-ce qu'il est possible d'envisager une thérapie génique, ou est-ce vraiment encore de la musique d'avenir?
Alors, c'est les deux. On peut alors imaginer, c'est très facile à imaginer, et aujourd'hui il existe déjà plusieurs programmes de thérapie génique où on peut remplacer un gène absent par une copie normale. Et ça a été fait dans les années 2000, tout d'abord chez le chien. Il existe plusieurs races de chiens qui ont des problèmes de vision. Et un de ces chiens avait un problème de vision, avait une mutation dans un gène identique à un gène humain qui cause une amaurose congénitale de Leber. Donc c'est devenu un modèle très très intéressant, parce que on peut pas passer du traitement d'une souris à un traitement d'un homme, il faut qu'on ait entre deux d'autres modèles de plus en plus grands pour être certain que la thérapie se passera correctement. Et dans cette thérapie, il est possible d'injecter dans l'œil un virus qui a été modifié et qui contient le gène manquant chez le chien. Et cette thérapie a déjà été effectuée chez l'homme, à la fois aux États-Unis et en Angleterre.
Et peut-être bientôt à Liraud, puisque vous faites des petits, Daniel Chordoret, à Liraud. Il y a plein de start-up hein, qui sont en développement pour développer des thérapies, justement.
Donc c'est un des axes que nous soutenons très fortement, effectivement. Donc on a plusieurs modèles. Et il n'y a pas seulement la thérapie génique, mais il y a aussi ce que j'appelle la thérapie moléculaire. C'est-à-dire qu'on peut garder les gènes ensemble, mais on peut essayer de soutenir les cellules qui sont en train de mourir pour leur donner quelques heures, quelques jours, quelques mois de plus. Par exemple, dans le cas de l'ischémie rétinienne, il faut qu'on puisse soutenir ces cellules pendant peut-être 2-3 jours, le temps qu'on arrive à enlever le bouchon qui empêche le sang d'arriver. Et donc, si on laisse ces cellules en vie pendant quelque temps, peut-être qu'après, elles vont rester et puis elles vont continuer à fonctionner correctement. Et la même chose avec les autres gènes. Si on arrive à moduler les protéines, à trouver des gènes ou des protéines qui aident les cellules à rester en vie, je pense qu'il y a aussi là tout un axe qu'il faut développer et qu'on fait à Sion.
Il y aura bientôt un autre tournant et un autre développement pour l'IRO, puisque vous allez devenir la 12e chaire du campus de l'EPFL Valais, donc chaire d'ophtalmologie. Vous en attendez quoi?
On attend beaucoup de, on attend, disons, d'augmenter notre potentiel de collaboration avec l'EPFL. Donc, on va avoir à l'IRO deux chaires. Donc, il y avait une première chaire qui était déjà dans le plan qui avait été signé par le Conseil d'État du Valais et les PFL. C'était dans ce groupe des 11 chaires. Ce qui est nouveau, c'est cette 12e chaire qui va nous permettre d'augmenter le nombre de chercheurs à l'IRO. Et alors, on va voir dans quel domaine on va recruter quelqu'un. Mais je pense que pour l'IRO et pour le Valais, c'est quelque chose d'intéressant.
Donc, on vous donne rendez-vous, je pense, à tout bientôt dans ces QFD pour parler de tout ça. Merci Daniel Chordoret. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IRO, justement, l'Institut de Recherche en Ophtalmique, en Ophtalmologie, qui est basé à Sion. Vous répondiez à l'invitation de Sarah Diren.
CQFD sur la première.